pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, avez-vous déjà pensé au fait que nous vivons sur la seule planète habitable du système solaire ? C'est fou quand on y réfléchit. La Terre est un véritable miracle. Sa taille, son atmosphère, ses ressources en eau, la proximité du Soleil ont permis de créer une activité biologique, la vie, qui s'est diversifiée jusqu'à notre apparition, à nous, les humains. Mais aujourd'hui, c'est cette habitabilité que nous remettons en cause avec nos activités. Nous en parlions la semaine dernière dans l'émission. Selon le Stockholm Resilience Center, nous venons de franchir la cinquième limite planétaire. Après le changement climatique, la perte de biodiversité, les bouleversements des cycles mondiaux de l'azote et du phosphore, c'est désormais la pollution chimique de notre écosystème qui pose problème. Plastique, pesticides, antibiotiques, produits pharmaceutiques, il existe plus de 350 000 produits chimiques sur le marché mondial qui pénètrent les écosystèmes naturels et les organismes vivants. Alors qu'est-ce qu'une terre habitable dans ce contexte ? C'est le thème d'une des nombreuses conférences organisées par l'École urbaine de Lyon pour la quatrième édition de son festival intitulé « À l'école de l'Anthropocène ». C'est au milieu de cet événement que nous avons installé notre studio cette semaine au RIZ, un lieu culturel situé à Villeurbanne, près de Lyon, Villeurbanne baptisée capitale française de la culture pour cette année 2022.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Michel Lusseau.
Bonjour.
Vous êtes géographe, professeur d'études urbaines à l'École normale supérieure de Lyon. En 2017, vous avez créé donc l'École urbaine de Lyon que vous dirigez. C'est un projet interdisciplinaire de recherche. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
C'est assez simple à expliquer. Nous sommes partis du constat que le changement global, c'est-à-dire la modification profonde des dynamiques des systèmes biophysiques liés aux activités humaines, à l'impact de ces activités humaines, ce changement global dont nous connaissons peut-être la manifestation la plus spectaculaire, c'est-à-dire le changement climatique, le réchauffement climatique, ce changement global allait provoquer non pas une disparition de la planète Terre ou une disparition du vivant ou une fragilisation de la planète en tant que telle, mais provoquer beaucoup plus une crise de l'habitabilité humaine de cette planète, puisque finalement la planète c'est notre logis planétaire, hein. C'est l'expression qu'utilisent les anglophones lorsqu'ils désignent la Terre, ils disent « the home planet », c'est notre logis à nous, espèce humaine. Et il se trouve que depuis des milliers d'années, en raison même des manières que nous avons de vivre, de développer nos techniques, de concevoir nos relations avec les écosystèmes, avec les systèmes biophysiques, mais il se trouve que depuis cette occupation humaine de la Terre que nous entreprenons de façon massive dans les derniers millénaires, depuis le néolithique, nous avons produit des conditions de vie très différentes de celles qui préexistaient auparavant, et que nous sommes dans une situation très étrange où, en raison même de la puissance humaine d'organisation de ces conditions de vie, nous sommes susceptibles de mettre en péril notre capacité d'habiter, l'habitabilité dont nous avons besoin. Donc finalement, nous avons une situation qui est assez simple à résumer. Nous sommes puissants, nous n'avons jamais autant façonné les systèmes biophysiques en fonction de nos besoins. Nous convertissons chaque parcelle du système biophysique en ressources, en tout cas potentiellement nous pouvons le faire. Nous exploitons les océans, nous exploitons les sols, nous exploitons les écosystèmes, nous exploitons à peu près tout ce qui peut être exploité. Et donc nous pouvons considérer que c'est une sorte de phénomène de maîtrise tout à fait extraordinaire, mais en raison même de ça et des impacts que ça produit sur les systèmes biophysiques qui sont, comme on dit, forcés par les conséquences de ces activités humaines, eh bien nous sommes en train d'être confrontés à une crise majeure de l'habitabilité, et une crise majeure qui n'est pas pour demain, qui commence aujourd'hui. Donnons un exemple de cette crise de l'habitabilité, qui n'est pas pour demain, mais pour aujourd'hui, et donnons un exemple dans un pays riche, pour ne pas aller, comme souvent, prendre des exemples dans des pays qui sont en développement ou confrontés à des conditions de vie très difficiles. Lorsque vous êtes un habitant de la Bay Area en Californie, que vous êtes confronté depuis les 20 dernières années à des épisodes annuels de sécheresse extrêmement sévères, la Californie connaît une sécheresse récurrente depuis 15 ans, que vous avez des vagues de chaleur extrêmement sévères également depuis 15 ans, avec des chaleurs extrêmes, c'est-à-dire des chaleurs qui sont considérées comme des chaleurs létales, hein, au-delà de 38 degrés, au-delà de la température du corps, l'être humain souffre de cette chaleur. Et que de surcroît, depuis maintenant 20 ans également, vous êtes confronté chaque année à des méga-feux, ces fameux incendies absolument énormes et dévastateurs qui sont tellement grands qu'ils créent leurs propres conditions, qui fait qu'ils sont inarrêtables par une action humaine et qu'ils émettent des poussières, des gaz, qu'ils rendent extrêmement difficile toute une série d'activités, qu'ils rendent impossible une réutilisation des espaces qui ont été touchés par des feux dont les températures elles-mêmes sont extrêmes. Eh bien, même en Californie, État américain qui, si vous le considérez isolément, serait la cinquième puissance économique mondiale, même en Californie, vous avez aujourd'hui des personnes qui se posent la question de savoir s'ils vont pouvoir endurer chaque année des épisodes sécheresse, canicule, grand feu, réguliers. Et cela, c'est la première manifestation de ces effets du changement global sur les sociétés humaines.
Alors Isabelle Daniel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes minéralogiste, géologue, professeur en sciences de la Terre à l'université Claude-Bernard Lyon 1. Vous dirigez l'Observatoire des sciences de l'univers de Lyon. Et vous êtes présidente de l'Union minéralogique européenne. Alors vous travaillez autant sur l'intérieur que sur la surface de la Terre, j'ai envie de dire, et vous explorez les limites de la vie. Alors Michel Lusseau nous disait, on se pose la question de l'habitabilité de la Terre, mais en effet, on se la pose pour les humains. Les autres organismes, ça va aller finalement.
Oui, alors on se pose la question effectivement d'un point de vue anthropocentrique. Hein, comment est-ce que nos sociétés vont survivre à la façon dont elles ont modifié l'environnement qu'on habite traditionnellement ? Et ça peut être assez varié. Maintenant, au niveau de l'histoire de la Terre, la vie existe depuis très longtemps sur Terre. D'ailleurs, pas que à la surface de la Terre, mais aussi dans sa subsurface. Hein, il y a probablement plus de vie sous la surface de la Terre qu'au-dessus.
Jusqu'à quelle profondeur ?
Jusqu'à quelques kilomètres de profondeur. Alors, quand la densité de cellules, c'est-à-dire le nombre de cellules par millimètre cube ou par kilomètre cube de roche, diminue progressivement au fur et à mesure que l'on s'enfonce à l'intérieur de la Terre, mais il y a un grand nombre de microbes qui sont là. Alors évidemment, du coup, on n'est pas du tout sur des formes de vie telles qu'on pense quand on pense au règne animal, en particulier, c'est surtout celui auquel on est le plus sensible, plus le règne végétal, mais là, on parle vraiment de micro-organismes, des bactéries, mais aussi le règne des archées, donc des cellules qui peuvent avoir des métabolismes relativement simples et qui ont cette propriété, finalement, d'adapter leur, si je puis dire, leur niveau de vie à l'énergie qui est disponible et aux nutriments disponibles pour pouvoir effectuer leur cycle cellulaire.
Alors pourquoi est-ce que la vie est possible sur Terre ? Je le disais en introduction, c'est un peu un miracle en fait, sur
Alors,
Terre.
La vie est possible sur Terre et elle existe. On a des traces indiscutables de vie depuis à peu près 3,4 milliards d'années. On pense que la vie est apparue entre 3,4 et 4,3 milliards d'années quand l'eau est apparue sous la forme liquide de façon stable sur Terre. Et à ce moment-là, la Terre était quasiment complètement recouverte d'océans. Et après, voilà, c'est tout un ensemble de réactions chimiques qui ont combiné le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, plus un certain nombre d'autres éléments pour faire les molécules qui constituent en fait l'ensemble des êtres vivants tels qu'on les connaît sur Terre, à l'heure actuelle.
Et le fait qu'il y ait le soleil pas trop loin, tout ça, ça joue ?
Alors, le soleil, bien entendu, joue un rôle extrêmement important dans le fait de pouvoir avoir de l'eau liquide à la surface de la Terre. Au départ, en fait, dans l'histoire de la Terre, même quand on pense que la vie est apparue, le soleil jouait un rôle peut-être moindre. Hein. Il n'avait pas la puissance qu'il a, la luminosité et la puissance calorifique qu'il a à l'heure actuelle. C'était un jeune soleil. En revanche, l'atmosphère était très différente de l'atmosphère actuelle. C'est une atmosphère qui était essentiellement constituée de dioxyde de carbone et de méthane. Donc, ils sont de puissants gaz à effet de serre. Je crois que ça, on a bien compris. C'était l'atmosphère qui était là à ce moment-là. Donc, elle compensait en fait la faible luminosité et la faible chaleur disponible à partir du soleil. Et la première vie qui s'est développée, c'était une vie complètement sans oxygène.
Enfin, on comprend bien que tout ça, c'est quand même une alchimie assez exceptionnelle. Bonjour Laurent Tillon.
Bonjour.
Alors le vivant, c'est ce qui vous passionne. Hein. Vous aussi, vous êtes responsable biodiversité de l'Office national des forêts. Vous vivez au cœur de la forêt de Rambouillet, près de Paris. Et vous êtes fait connaître, vous avez publié plusieurs livres, mais votre dernier livre est un vrai succès en librairie. Ça s'appelle « Être un chêne sous l'écorce de Quercus », publié chez Actes Sud. Alors, dans ce livre, vous nous racontez votre relation avec un arbre, donc ce chêne Quersus, qui a plus de 240 ans à peu près, c'est
ça? Oui, c'est ça, je l'ai estimé à 240 ans.
Et alors, vous commencez par décrire finalement toutes les raisons pour lesquelles il aurait pu ne pas exister. Et là aussi, c'est une autre approche que celle de Michel Luisseau ou d'Isabelle Daniel, mais ça montre à quel point la vie est fragile.
À quel point elle est fragile et à quel point elle est soumise à une multitude de hasards. Quand Isabelle nous parlait tout à l'heure de effectivement, l'apparition de la vie et toutes les conditions qui ont fait que la vie à un moment a pu émerger, très très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui, et ben, en réalité, même encore autour de nous, actuellement, finalement, tous les êtres vivants qui nous entourent, ils sont soumis à toute une multitude d'événements qui, par un jeu de hasard parfois difficile à expliquer, aboutissent aux vivants qu'on a autour de nous. Et moi, c'est ce qui me passionne, c'est justement la place qu'ont tous ces vivants à côté de nous, que l'on côtoie, et les interactions qui peuvent exister entre ces différents vivants. Et inévitablement, et là on rejoint la question de l'habitabilité de la Terre, c'est que les interactions avec l'humain sont évidentes dès le départ. Pour nous, à la fois, toutes ces espèces sont totalement indispensables pour notre vie, pour notre survie. Et en même temps, ces espèces sont totalement dépendantes de la manière dont on modèle les paysages et de la manière dont, progressivement, chacun des individus parmi ces différentes espèces peuvent prendre place dans leur environnement. Et c'est vrai que moi, j'ai la grande chance, du coup, d'habiter en forêt de Rambouillet, où j'ai rencontré pendant mon adolescence ce vieux chêne, qui a aujourd'hui 240 ans. Alors, c'est loin d'être le plus vieux de la forêt, hein, mais pour autant, allez savoir pourquoi, là encore une fois, le jeu du hasard a fait qu'à un moment pendant mon adolescence, mon vélo a eu un problème mécanique qui m'a arrêté au pied de cet arbre, alors que je ne connaissais rien à la nature, rien du tout à la forêt. Je me suis senti particulièrement bien auprès de cette nature. Et ça aussi, c'est un élément qui est important. On a besoin de cette nature aussi parce qu'on s'y sent bien. Et puis, je me suis posé contre un arbre. C'était pas le bon, un autre, un être dont l'écorce peut paraître lisse, mais il n'était pas accueillant. Jusqu'au moment où je me suis posé contre un chêne, que j'ai appelé Quercus, et qui, malgré son écorce rugueuse, avait un empattement, c'est-à-dire le départ des racines depuis le tronc qui s'insère dans le sol avec un écartement suffisant pour me donner l'impression de m'asseoir comme dans un fauteuil. Et à partir de là, s'est ouvert tout un champ des possibles pour déjà contempler la nature qui m'entourait, mais en plus comprendre justement la place que je pouvais avoir dans ce milieu naturel.
Et aujourd'hui, vous travaillez à l'Office national des forêts, donc ça a vraiment créé une vocation, c'est une vraie passion. Alors ce vivant, on l'a évoqué et menacé aujourd'hui par nos activités, à nous, les humains. C'est le résultat, on l'a aussi évoqué, de notre développement. Une histoire que vous racontez, Michel Luisseau, dans une exposition pas très loin d'ici, à Lyon, au Musée des Confluences, qui est intitulée « La Terre en héritage du néolithique à vous ». Alors, vous le racontez, vous et d'autres, hein, puisque vous faisiez partie du comité scientifique, comme l'archéologue Jean-Paul Demoule, qui a aussi fait partie du comité scientifique de cette exposition et qui nous résume comment nous en sommes arrivés aujourd'hui à ce monde globalisé dans lequel nous vivons.
Chaque groupe humain, à l'origine, tend à se distinguer. Donc nous, archéologues, on utilise beaucoup les poteries, notamment dans chaque région, on va faire des formes et surtout des décors de poteries qui vont être différents pour bien se différencier les uns des autres. Mais on a affaire à des petites entités sociales. Et puis progressivement, au cours du temps, eh bien on a des agglomérations qui fait qu'on va avoir des entités avec à chaque fois une culture matérielle relativement uniforme, mais de plus en plus grande, et on va aller vers les empires. L'empire romain, eh bien, de Londres à Damas, de Budapest à la région du Caire, eh bien, on va avoir les mêmes poteries, les mêmes décors, les mêmes théâtres, les mêmes amphithéâtres, etc. Et tout ça, effectivement, pour finir dans l'actuel empire mondialisé, avec, même s'il y a quelques phénomènes de résistance ça et là, eh bien, effectivement, les mêmes bouteilles de Coca-Cola qui poseront des problèmes aux archéologues, sans doute, du moins celles en verre, parce que celles en plastique, j'espère qu'elles auront disparu dans 10 000 ans.
Alors une bouteille en plastique met entre 100 et 1000 ans à se décomposer, donc d'ici 10 000 ans, en effet, on espère, comme Jean-Paul Demoule, qu'il n'y en aura plus à la surface de la Terre. Michel Luisseau, c'est cette globalisation qui remet en cause l'habitabilité de la Terre ?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que la forme qu'a prise l'habitation humaine de la planète depuis la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui la société thermo-industrielle, c'est-à-dire cette société qui appuie son développement sur l'exploitation du carbone fossile, notamment pour produire l'énergie qui est absolument décisive pour permettre l'habitation. Et c'est intéressant ce qu'Isabelle a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'apparition de la vie, c'est une apparition, même lorsqu'on envisage des formes de vie très différentes de la forme de vie humaine, l'apparition de la vie est quelque chose qui est directement lié à la problématique de l'énergie et aussi des nutriments. Et finalement, cette nécessité d'avoir et de l'énergie et des nutriments, c'est quelque chose qu'on retrouve pour le chêne, mais c'est aussi quelque chose qui est absolument décisif pour comprendre comment les sociétés humaines ont franchi différentes étapes sans que cela soit orienté, finalisé. Ce que Laurent a dit est très important. En réalité, on a souvent tort quand on essaye de penser l'histoire humaine rétrospectivement, en faisant ce que le célèbre historien Paul Vane appelait la rétrodiction, c'est-à-dire regarder le passé à partir du présent, donc en inventant le roman vrai de l'histoire, disait-il. On a souvent tendance à commettre l'erreur de croire que la trajectoire des sociétés humaines est finalisée, que leur histoire est orientée par un principe générateur, par une volonté, par le progrès. Mais évidemment, mais tout ça, ce sont des racontards a posteriori, ce sont des histoires qu'on se raconte. Et moi, j'adore les histoires. Mais lorsqu'on regarde l'émergence des sociétés néolithiques, l'émergence même de ce que l'on a longtemps appelé la révolution industrielle, donc le départ de cette société thermo-industrielle dont je parlais tout à l'heure, mais c'est surtout le hasard et la nécessité qui l'emportent. C'est surtout la contingence qui l'emporte. Il n'y a pas véritablement de plan directeur, ou alors il faut vraiment que vous ayez une interprétation de l'univers qui n'est pas la mienne, un dessin intelligent, un démiurge. Non, en réalité, c'est plutôt des arbitrages en fonction d'une équation extrêmement subtile qui met en lien des populations, des ressources, des techniques, de l'énergie. Et on va essayer de mettre en équation tout ça et de trouver les résultats. Et au moment de la société thermo-industrielle, donc en gros à partir de 1750, mais ça avait été préparé très longuement par cet épisode tout à fait décisif pour l'affirmation de la puissance européenne, et qu'on a longtemps oublié, c'est que la puissance européenne se fonde bien sûr sur la révolution thermo-industrielle, mais elle se fonde avant cela sur l'exploitation coloniale et la mise en place de l'économie esclavagiste de plantation. Notre puissance est fondée sur l'esclavage. Notre puissance est fondée sur le génocide des populations amérindiennes et sur l'esclavage. On a eu tendance à ne pas vouloir le mettre en avant.
Aujourd'hui, on le rappelle aujourd'hui. On parle même de plantation
océane. Mais tout ça était une sorte de contingence, parce qu'à l'époque, l'Europe n'était pas la principale puissance de la planète Terre. C'était plutôt le monde chinois qui était la principale puissance. Mais en revanche, l'apparition de cette société thermo-industrielle, où on va avoir de l'énergie, des machines, des nouvelles puissances qui vont pouvoir aller chercher de nouvelles ressources avec des effets de rétroaction qui vont faire que la puissance appelle la puissance, ça a incontestablement été une étape décisive dans notre relation à l'environnement. Pas à la planète d'abord, mais à l'environnement biophysique qui est celui des êtres humains.
Et Isabelle Daniel, c'est là où nous sommes vraiment une espèce invasive, nous les humains.
Oui, mais ce que vient de dire Michel au sujet de l'évolution des sociétés humaines est vrai en fait pour toutes les formes de vie. C'est-à-dire que dans la mesure où il y a pléthore d'énergie et pléthore de nourriture, à ce moment-là, toutes les formes de vie deviennent foisonnantes. Et ce n'est que quand il y a une limitation qui apparaît qu'effectivement, dans ce cas-là, ces formes de vie unicellulaires, par exemple, vont réduire significativement la voilure. Elles vont faire preuve de sobriété, si je puis dire.
Alors, Michel Dussault disait tout à l'heure, à 38 degrés en Californie, on a du mal à vivre. Quelles sont les limites de la vie sur Terre ?
À l'heure actuelle, les limites que l'on propose, alors en termes de maximum de température, la limite max-max qui a été étudiée en laboratoire, c'est exactement 122 degrés Celsius. En pratique, il y a un certain nombre d'espèces qui vivent, quelques espèces qui vivent au laboratoire au-dessus de 100 degrés Celsius. Et quand on fait des forages et qu'on analyse en fait le nombre de cellules en profondeur, quand on arrive aux alentours de 60-70 degrés, on voit une diminution significative. Ce qui n'empêche pas en fait que sur les derniers forages qui ont été faits, pour chercher justement la limite maximum en température pour la vie, dans un endroit où la température augmente particulièrement vite en fonction de la profondeur, eh bien, on a vu en fait réapparaître des formes de vie reposant en fait sur d'autres systèmes de ressources énergétiques, c'est-à-dire d'autres systèmes de conversion chimique qui leur permettent d'avoir de l'énergie.
Je retiens quand même le 122 degrés, Laurent Tillon, en forêt, ça n'existe pas. Ça,
non, ça n'existe pas. C'est même des conditions qui seraient absolument irréalisables, enfin en tout cas insupportables pour tous les organismes vivants. Ça fait rêver, hein, Isabelle.
Ça fait rêver quoi, cette amplitude? Vous dites que c'est
cette capacité de la vie à pouvoir s'adapter à des conditions quand même extrêmes et qui sont totalement inatteignables pour l'instant sur Terre. Et c'est vrai que moi, tous les organismes sur lesquels je travaille, pour le coup, le chêne en particulier, et puis les autres essences forestières, et ensuite tous les organismes qui peuplent la forêt, ben, ont quand même des limites qui sont d'ailleurs assez proches des nôtres finalement. Voilà. C'est-à-dire que les températures extrêmes, à la fois les fortes chaleurs, mais aussi par moments les gels très importants, ont des conséquences sur les organismes qui sont difficiles à éviter. Par exemple, les températures extrêmes, nous, on s'est rendu compte, on parlait notamment tout à l'heure avec Michel des fortes températures, des fortes sécheresses. Aujourd'hui, il faut savoir que, notamment en Europe, on considère que dans les 30 années qui viennent, un tiers des surfaces forestières vont être très, 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 très fortement impactées par ces sécheresses et ces températures extrêmes, au point d'en modifier la structure même et la composition. Dans 30 ans, un tiers de nos forêts vont changer de paysage et de faciès. Il faut qu'on s'y prépare en tout cas à ça, avec toutes les espèces qui, inévitablement, dans certains cas, pourront s'adapter. Vous voyez, par exemple, on travaille notamment sur des insectes, sur des oiseaux, des chauves-souris qui dépendent des chênes. Si les chênes en viennent à disparaître pour partie de nos paysages, que vont devenir ces espèces? Auront-elles la capacité de s'adapter ou pas? Voilà, ça pose tout un tas de questions. Et puis, alors certaines d'entre elles, quelque part, le lien avec nous, l'homme, il paraît pas forcément évident, mais beaucoup, par exemple, de pollinisateurs, notamment les pollinisateurs sauvages dont on a besoin et qui vont sortir des forêts pour aller polliniser notamment nos plantes cultivées, ces pollinisateurs vont être affectés. Alors, on sait déjà que notre manière de vivre utilisant des pesticides et des insecticides qui ont des conséquences terribles sur les populations d'insectes, donc affectent leur capacité à se maintenir dans nos paysages. Mais là, on va toucher du doigt encore un autre phénomène que pour l'instant, on est incapable de modéliser et maîtriser.
Jusqu'à quel point l'habitabilité de la Terre pour les humains est-elle aujourd'hui menacée? Nous en parlons avec nos invités juste après ça. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost. One day I know our paths will cross again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. And I will hide. Many times I've been told, speak your mind, just be. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I'd feel no fear. Then I'd feel no way. My past will be. Michael Kiwanuka, Home Again, dans C'est pas du vent sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Nous sommes au centre culturel Le Riz à Villeurbanne, la capitale française de la culture pour cette année 2022. Nous sommes donc près de Lyon, dans le sud-est de la France, à l'occasion de À l'école de l'Anthropocène, un événement organisé par l'école urbaine de Lyon. Et nous nous interrogeons avec nos invités sur l'habitabilité de la Terre, jusqu'à quel point est-elle aujourd'hui menacée pour nous, les humains. Il y a des signes inquiétants. Je vous propose par exemple de nous rendre en Indonésie, où le président a annoncé qu'il allait déplacer la capitale du pays, Jakarta, qui est devenue irrespirable et qui prend l'eau.
Face à l'eau qui menace, l'année dernière, le président indonésien a pris une décision spectaculaire.
Je demande l'autorisation de déplacer la capitale de notre État sur l'île de Kalimantan, au nom d'une vision, celle d'une Indonésie développée, d'une Indonésie éternelle. Merci. Liberté.
En attendant, rien ne semble ralentir le rythme de cette capitale. Palaces internationaux, centres commerciaux gigantesques, travaux à tous les coins de rue. Impossible d'imaginer que ces 11 millions d'habitants se préparent à déménager. Au ministère des Travaux publics, il y a pourtant des ingénieurs chargés de l'organiser. Comme Firdaus Ali. Pour justifier cette décision extrême, il tient à nous montrer la situation critique de la ville.
Vous voyez, ce sont les prévisions. 2025, 2050.
Quand ça devient bleu, ça veut dire que ça sera inondé.
Oui, en fait, non, pas inondé, totalement englouti.
Un extrait de Indonésie, l'archipel englouti, un reportage réalisé par nos collègues de France Télévisions pour l'émission Envoyé spécial. Et les députés indonésiens viennent officiellement d'approuver le projet du président Joko Widodo de transférer la capitale sur l'île de Bornéo. Il promet que Nusantara, la nouvelle capitale, sera zéro émission. Mais sa localisation en plein cœur de cette île riche en biodiversité fait craindre évidemment une déforestation massive. Michel Lussault, là, on est au cœur même de la question de l'habitabilité.
Oui, c'est-à-dire qu'on a un cas presque paroxystique d'une logique de développement urbain et de développement tout court qui n'est pas soutenable. Évidemment, les capitales comme Jakarta, mais on pourrait également parler de Bangkok et de quelques autres, sont confrontées à des difficultés tout à fait redoutables au plan environnemental. Je ne parle même pas ici des difficultés sociales, il y aurait beaucoup à dire. Parce que ce qu'on ignore trop souvent, c'est qu'une bonne partie des mégapoles et des zones urbaines littorales aujourd'hui, et l'urbanisation suit très souvent les littoraux, qui sont des espaces très urbanisés pour des raisons assez compréhensibles, parce que ce sont des espaces de contact. Une bonne partie de ces zones urbaines sont confrontées à un phénomène que les géologues connaissent bien, c'est-à-dire, bon, pour le dire vite, ces zones urbaines s'enfoncent aussi sous leur propre poids, notamment lorsqu'elles sont construites sur des espaces qui sont des espaces marécageux ou avec peu de solidité. Si vous conjuguez ça à l'élévation continue des niveaux marins, liée en particulier aux fontes et aussi aux modifications des régimes hydrographiques des rivières qui sont proches, vous pouvez avoir de vraies problématiques de submersion. Si vous rajoutez les ouragans, si vous rajoutez les orages, les cyclones, les vents violents, les effets des marées, vous avez des vraies problématiques de submersion. Mais faut-il se sortir d'une problématique de submersion en rajoutant, si je puis dire, dans la surenchère du développement extrêmement consommateur de ressources? On peut quand même sourire devant l'idée que cette nouvelle capitale serait zéro émission. En réalité, ça ne veut rien dire aujourd'hui de dire ça. C'est un slogan politique qui est complètement vain. On sait bien que construire une nouvelle implantation humaine urbaine, c'est extrêmement consommateur. Parce que le monde qui s'est mis en place depuis 1950, ce monde qui s'est considérablement urbanisé, et il ne s'agit pas d'ailleurs de dénoncer l'urbanisation par principe, l'urbanisation apporte aussi beaucoup de choses, c'est un monde qui est, comme disent les géographes, fondé sur l'extractivisme. C'est-à-dire, c'est un monde qui ne tient que parce qu'on est capable d'extraire des ressources systématiquement de tout milieu, de tout environnement biophysique. Alors, on a beaucoup parlé du vivant, et on a raison de parler du vivant, mais il faut rappeler aussi que nous extrayons beaucoup de ressources minéralogiques, beaucoup de ressources non vivantes, et que sans cela, nous ne pouvons pas vivre. D'ailleurs, nous ne pouvons pas construire nos villes, puisque le premier matériau utilisé par l'homme, extrait par l'homme, c'est le sable pour construire ces édifices. Donc, déplacer la capitale, ne serait-ce que de 5 ou 10 kilomètres, c'est quelque chose qui va nécessiter une nouvelle surenchère d'extraction, de mise en coupe réglée des écosystèmes. Je pense qu'il faudrait plutôt aller vers une autre voie qui serait la recherche d'une nouvelle adaptation à des conditions changeantes. Et là, Isabelle pourrait nous en dire beaucoup, comme Laurent en tant que forestier. C'est-à-dire que ce qui est intéressant lorsqu'on observe les écosystèmes ou les géosystèmes, c'est la façon dont le vivant doit s'adapter à des conditions changeantes. Et s'adapter à des conditions changeantes, quand on est un être humain thermo-industriel de la fin du XXe ou des débuts du XXIe siècle, malheureusement, c'est toujours aller plus loin dans la surenchère extractiviste. Alors qu'on pourrait avoir d'autres formes d'adaptation, redécouvrir des manières d'habiter plus sobres, plus économes, plus soucieuses aussi de cette relation avec chaque élément de l'écosystème dont Laurent parle si magnifiquement dans son livre. Quand on entretient cette relation avec un arbre, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est cela dont il faudrait s'inspirer, peut-être beaucoup plus que de cette volonté de puissance qui paraît aujourd'hui un peu dérisoire.
Isabelle Daniel, vous êtes minéralogiste aussi. Michel Dussault parlait de l'extraction très puissante que les humains exercent sur les minéraux à l'échelle de la planète. Ça peut remettre en cause l'habitabilité de la Terre? Ça déséquilibre massivement les choses?
Au niveau de l'économie telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, nous extrayons plus que ce qu'il n'est possible pour maintenir notre habitabilité au sens où on est en train de la discuter. Michel donnait l'exemple du sable, c'est quelque chose qui est très clair, avec aussi quelques initiatives peu conseillées scientifiquement, avec de l'extraction de sable et des modifications de traits de côte tout à fait significatives qui engendrent ensuite d'autres difficultés assez mal anticipées. Mais clairement, on n'aura pas la possibilité de continuer à développer nos sociétés comme on le fait à l'heure actuelle, sur les ressources qui sont disponibles à l'heure actuelle. En ce qui concerne l'énergie et le carbone fossile, je pense que tout le monde a bien compris qu'on vient de passer, on a passé déjà le pic d'extraction du pétrole depuis probablement une dizaine d'années. Je ne voudrais pas me prononcer sur des années trop précisément, mais il est clairement derrière nous. Donc il va falloir trouver en fait une nouvelle façon de nous développer de façon probablement beaucoup plus sobre. C'est la même chose, nos sociétés, toute notre économie numérique repose beaucoup sur le cuivre et sur un certain nombre d'autres minerais rares qui vont arriver à épuisement. On entend aussi beaucoup parler à l'heure actuelle de la possibilité en fait, de continuer notre développement sur la base de l'énergie nucléaire. De la même façon, se pose la question de la ressource en uranium qui est loin d'être infinie, sans parler même du tout des problématiques environnementales et liées en fait à la sûreté nucléaire. Donc on a toutes ces problématiques-là à régler. Et effectivement, comme le disait Michel, envisager d'aller vers une sobriété discutée, consentie, qui ne soit pas synonyme de pauvreté, est un véritable enjeu sociétal.
Laurent Tillon, je le disais, la capitale Jakarta va déménager sur l'île de Bornéo. Bornéo, quand même riche en biodiversité, riche en forêts. Faudrait peut-être rappeler le rôle que jouent les forêts dans l'habitabilité de la Terre.
Oui, et puis un hotspot de biodiversité, c'est-à-dire un point chaud très très important, l'un des points les plus riches en multitude d'espèces qu'on peut rencontrer sur la Terre. Alors c'est vrai que les forêts, elles jouent plein de rôles, notamment le premier, c'est celui de la captation du carbone, qui est essentiel face aux défis climatiques auxquels on est confronté. On a beaucoup de carbone dans l'atmosphère qui a été relâché notamment par l'utilisation des énergies fossiles, dont Michel et Isabelle parlaient à l'instant. Il est essentiel d'éviter d'en émettre, mais aussi de trouver des moyens d'arriver à capter ce carbone pour réduire la charge dans l'atmosphère de cet élément qui est un gaz à effet de serre qui induit et amplifie encore plus le réchauffement climatique auquel on est confronté. Donc ça, c'est un enjeu qui est majeur. Mais en plus de ça, les forêts, elles jouent d'autres rôles. Un premier, c'est un régulateur, notamment climatique, Alors, de s'installer dans une forêt, notamment comme celle de Bornéo, qui joue un rôle très important, notamment en pompant beaucoup d'eau, mais aussi en relarguant beaucoup sous forme de vapeur d'eau. En fait, tous les arbres de cette forêt jouent un rôle essentiel de manière à abaisser notamment le niveau de température de manière locale. Et puis, en même temps, elle joue un rôle essentiel pour la biodiversité de manière globale. Et c'est vrai qu'on a parfois, d'ailleurs, malheureusement, tendance à s'occuper et se préoccuper essentiellement de l'enjeu climatique en oubliant aussi l'enjeu de biodiversité. Les forêts, elles cumulent les deux enjeux de manière fondamentale. Après, quelle que soit d'ailleurs l'origine de la Covid-19, beaucoup de gens se posent la question. Mais on sait que beaucoup des zoonoses qu'on voit apparaître ces dernières années sont liées à une forme d'instabilité de la biodiversité à proximité des forêts, en particulier des forêts tropicales. Globalement, les forêts, plus elles se portent bien, plus on les laisse vivre naturellement et mieux finalement elles se portent, et donc vis-à-vis de nous, moins elles ont d'impact potentiel, notamment par l'émergence des zoonoses. Donc là, le projet qui vise à déménager de Jakarta est un projet particulièrement inquiétant parce qu'on imagine bien que ça va grignoter de toute façon l'écosystème forestier, le fonctionnement de l'écosystème forestier avec des impacts climatiques, des impacts de biodiversité et puis après un impact social qui va être aussi considérable parce qu'au final, on ne fait que repousser l'inévitable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de toute façon, la quantité de gens qui vont devoir se déplacer va être telle qu'il va y avoir une dispersion, il va y avoir des impacts collatéraux qui sont évidents en fait dans un tel projet.
Oui, ce n'est pas simple. Hein. Comment maintenir l'habitabilité de la Terre ? Nous en parlons juste après. Ridan, Objectif Terre dans C'est pas du vent sur RFI.
Aujourd'hui j'ai de la chance, je suis encore là. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Nous paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien.
Dan, Objectif Terre dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent.
On a des modèles qui montrent, par exemple, que des pans entiers de l'Amazonie pourraient basculer en savane dans les décennies qui viennent avec le changement climatique. En fait, ces seuils, ce qu'on appelle des points de basculement, on peut imaginer un petit empilement de pièces. On en empile toujours une de plus dessus et puis en fait elle commence un petit peu à être sur le côté et chaque pièce nouvelle qu'on va rajouter n'est pas un changement fondamental par rapport à ce qu'on avait avant. Mais au bout d'un moment, on va rajouter une seule, pas plus que d'habitude, une seule et tout va s'effondrer.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et ça c'est un point de basculement qui fait qu'on va arriver dans un système qui est complètement différent de celui d'avant et on ne peut pas revenir en arrière.
Pour nous écrire, c'est pas du vent. @rfi.fr.
Nous sommes au Centre culturel Le Riz à Villeurbanne, la capitale française de la culture. Nous sommes près de Lyon, dans le sud-est de la France, à l'occasion du festival à l'école de l'Anthropocène, un événement qui réunit des artistes, des chercheurs, des enseignants, un événement qui est organisé par l'école urbaine de Lyon. Et nous l'avons vu avec nos activités, nous les humains, nous sommes en train de remettre en cause l'habitabilité de la Terre. Alors comment pouvons-nous nous en rendre compte au quotidien? Eh bien pourquoi pas en créant un indice d'habitabilité. C'est une idée qu'a eu le sociologue Nathan Stern. Il travaille sur cet indice avec le philosophe Dominique Bourg, qui préside le comité scientifique de la Fondation Zoein, et avec Pierre Leroy, le président du pays du Grand Briançonnais dans les Alpes françaises. Nathan Stern nous en dit plus.
Alors un indice effectivement d'habitabilité des territoires, c'est la mesure de la capacité de ce territoire à satisfaire les besoins vitaux des humains qui y vivent.
Et dans cet indice, Nathan Stern, donc il y a 8 critères.
Absolument, 8 critères qui correspondent aux besoins vitaux qu'un homme sur un territoire donné doit pouvoir satisfaire pour que la vie soit possible. Parmi les besoins vitaux, on a bien sûr l'autonomie en eau, l'autonomie alimentaire, l'autonomie électrique. On sait bien qu'on ne va plus pouvoir s'en passer de cette électricité. L'autonomie en chauffage, pour que thermiquement on puisse tenir le coup. Et puis, la question de la gestion des déchets. Un territoire dans lequel on ne sait pas gérer les déchets correctement va très rapidement devenir inhabitable. De même, la question de la mobilité. Est-ce qu'on est autonome sur les mobilités ou est-ce qu'on dépend systématiquement d'un port? De même, respect de la biodiversité. Est-ce qu'on a encore des terres non artificialisées dans lesquelles la biodiversité peut s'épanouir ou est-ce qu'au contraire, tout est bétonné? Et enfin, dernier élément, mais très important, la question de la cohésion et de la solidarité. Est-ce que ce territoire a permis ou non l'éclosion de liens? Est-ce qu'il y a des biens communs? Est-ce qu'il y a des rites sociaux? Est-ce qu'il y a des décisions communes? Une vraie gouvernance commune, partagée? Ou est-ce qu'au contraire, on est à la veille d'une forme de conflictualité sur le territoire dans le cadre d'un manque, d'une pénurie, d'une ressource? C'est très important d'assurer aussi cette cohésion.
Alors ça veut dire qu'il faut rentrer plein d'indicateurs?
Alors il y a un indicateur maître qui est sur 100, à 0 il n'y a plus de vie possible, on est comme sur Mars, à 100 c'est optimum, on pourrait dire que c'est le niveau pré-industriel, 1830-1850, et bien sûr cet indice composite, il se compose de plein de sous-indices sur lesquels on va pouvoir être plus ou moins performant. Et ce qui est encourageant et motivant, c'est que quand on n'est pas très bon sur son autonomie en eau, on va pouvoir mener des actions qui vont déterminer rapidement une amélioration de son autonomie en eau. Et donc c'est le cumul de tous ces indicateurs partiels qui permet la constitution de cet indice composite d'habitabilité des territoires.
Donc ça sera un chiffre de 0 à 100 ?
Exactement, un chiffre de 0 à 100 et le job de chacun de nous quelque part, c'est localement de passer à l'unité supérieure et peut-être à la dizaine supérieure parce que plus on est proche de 100, plus quelque part on est en sécurité. Et ça, c'est vraiment le grand sujet qui permet, à mon sens, de renouveler un peu la mobilisation autour de l'écologie. C'est de se dire, c'est finalement une question de sécurité. Si on veut se sentir bien là où on est, on a tout intérêt à améliorer l'habitabilité de sa maison, de son quartier, de sa ville, de sa région, de son pays.
Et ça rend désirable l'adaptation au dérèglement climatique parce que finalement, si je suis maire d'une commune, j'ai intérêt à ce qu'elle ait l'indice d'habitabilité le plus élevé possible pour continuer à attirer des habitants, des industries, des commerces.
Tout à fait. La vraie définition de la richesse dans ce nouveau siècle qui commence, c'est peut-être la capacité du territoire à protéger les habitants qui y vivent. Et donc, quelque part, c'est une autre mesure de la richesse qui est peut-être bien plus effective que des outils comme le PIB.
Alors que pensez-vous de cette idée, Michel Lusseau, d'un indice d'habitabilité? C'est un indice sur lequel ils travaillent de façon collaborative à plusieurs. D'ailleurs, tous les gens qui veulent y participer sont les bienvenus.
Écoutez, il y a beaucoup d'initiatives de ce genre, que l'on parle d'indices, que l'on parle de limites planétaires ou de limites territoriales ou de coefficients d'habitabilité. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça renvoie toujours à cette idée que si nous voulons inventer une nouvelle manière d'habiter, de façon tout simplement à garder cette habitabilité pour le plus grand nombre. Je rappelle quand même quelque chose qui n'est pas malheureusement souvent mis en avant dans ce genre d'indices, c'est que cette habitabilité, nous devons la penser pour 10 milliards d'êtres humains. il faudrait envisager la Terre comme notre territoire. Nous sommes 10 milliards. L'habitabilité pour qui? Dans quelles conditions? Dans quelles bonnes conditions pour tout le monde? Donc il y a évidemment des questions sociales absolument considérables.
Même la notion de la justice.
Bien sûr, des notions de justice. Le problème de la justice environnementale, c'est un problème de justice sociale. Mais en tout cas, c'est quand même très intéressant de développer ces approches parce que ça nous montre qu'il faut concevoir ça comme un travail collectif et coopératif. Vous vous rendez compte, on l'a dit tout à l'heure, le vivant, l'émergence du vivant, c'est énergie, ressource. Nous avons aujourd'hui à habiter en utilisant moins d'énergie et en contenant considérablement notre consommation de ressources, alors que depuis 2 siècles et demi, nous avons été biberonnés aux amphétamines de l'énergie et aux anabolisants de la ressource. Eh bien, il va falloir passer à une habitation sans dopage. Et ça, c'est un travail coopératif. Et si on peut le faire à partir de ce type de mobilisation, alors faisons-le.
Isabelle Daniel, la sobriété, elle est difficile pour les humains. Est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres formes de vie?
Les formes de vie, de façon générale, quand elles se retrouvent confrontées à une limitation en énergie, on va utiliser le même vocabulaire, à une limitation alimentaire, si je puis dire, à ce moment-là, elles vont rentrer dans un mode de vie limité, un mode de dormance, où la vie, en fait, va de moins en moins se multiplier.
Mais nous, on ne sait pas faire ça.
On pense qu'on ne le sait pas. Je ne suis pas sûre qu'on ne sache pas faire.
Ah oui, vous pensez qu'on est capable de dormance?
On est capable d'une certaine forme de sobriété, probablement.
Il faut diminuer, en fait, notre appétit, notre consommation, notre vision, comme disait Michel Lussault, linéaire du progrès.
Peut-être changer nos idées, peut-être changer notre idéal de vie.
Laurent Tillon, l'indice d'habitabilité, ça vous parle?
Oui, c'est un indice qui me parle bien. Ouais, je pense que ce qui va être important, en tout cas pour demain, c'est d'être en mesure d'arriver à associer l'enjeu climatique à l'enjeu de biodiversité dans l'aménagement du territoire jusqu'à une échelle locale. Et il y a 2 exemples que j'aime bien évoquer, qui nous viennent de nos amis africains en particulier, dans la manière d'imaginer, de concevoir l'habitat de demain. Je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de ce que la nature peut nous offrir, et notamment au Zimbabwe, à Harare. Un architecte s'est totalement inspiré de l'architecture des termitières, celles qui sortent de terre et qui ont un fonctionnement interne permettant de réguler tant le taux d'hygrométrie que les températures. Et en construisant un bâtiment totalement calé sur ce mode de fonctionnement, il a réussi à réduire de 30% la consommation d'énergie, tant pour le chauffage que pour la climatisation. Voilà. Simplement en laissant faire ce que la nature a réussi à inventer par l'intermédiaire des termites. Puis il y a un 2e point qui est évoqué dans l'indice d'habitabilité, c'est cette notion de démocratie locale pour toutes les décisions qui peuvent impacter l'ensemble de la population. Et chez les Africains, il y a quelque chose que j'adore, que j'apprécie particulièrement, c'est l'arbre à palabre. Et moi, j'inviterais vraiment toutes les communautés, quelles qu'elles soient, à planter un arbre qui serve à un moment donné d'arbre à palabre sous lequel vont se prendre absolument toutes les décisions. Vous savez, ce sont des arbres qui, généralement, ont les premières branches au maximum à 1,50 m de hauteur. Ça évite de s'emporter. On est obligé de s'écouter les uns les autres. Généralement, quand on est un petit peu en colère parce qu'on n'est pas d'accord sur une décision qui pourrait être prise par la communauté, on a tendance à s'énerver, à se lever, mais on se cogne aux branches qui se trouvent juste au-dessus. Mais les Africains ont inventé cet arbre à palabre et l'utilisent le plus souvent possible quand c'est nécessaire pour les décisions collectives. Et je trouve que c'est un bel exemple.
Voilà, un arbre à palabre partout, dans toutes les villes, dans toutes les communautés. Ça peut être une façon de relier avec l'habitabilité de la planète. Merci à tous, en tout cas, pour ces éclairages. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio ici au RIZ à Villeurbanne. À l'école de l'Anthropocène, ça dure jusqu'à dimanche ici à Villeurbanne. Et vous pouvez aller sur le site internet à l'école de l'Anthropocène. Vous verrez, il y a plein de conférences, plein de sujets intéressants, plein de gens à lire et à rencontrer. Merci à Cédric Duroux aussi pour l'organisation de cet enregistrement. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et vos messages toujours plus nombreux. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.
Semaine d'actualité.